France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Je m'appelle Véronique Jans, je suis née le 19 avril 1966 et je suis probablement la plus grande des sopranos en France, en taille.
Véronique Jans, vous voilà donc en train de faire vos études de musique au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et aussi en train de faire des études d'anglais à la fac.
Voilà, c'est ça, ouais.
Comment vous avez mené tout ça de
Ah oui, non, j'étais bien occupée. J'étais bien, bien occupée. Et je me souviens que c'était un peu chaud, quoi. Et heureusement, j'avais des copines sympas à la fac, parce qu'il y avait des cours où je ne pouvais pas aller. Les cours de William Christie, à l'époque, c'était le lundi. Et j'étais à la fac à Orléans, et j'allais à Paris seulement le lundi. Donc, je ratais les cours à la fac, voilà. Et c'était une grosse journée. Ça commençait à 9h30, c'était jusqu'à 18h, mais c'était faisable. Et
donc pourquoi la fac d'anglais ?
J'avais très envie de faire une école d'interprétariat. En fait, c'était ça que je voulais faire. Je voulais devenir interprète. J'étais fascinée par ces gens qui écoutent une langue étrangère et qui parlent en même temps, qui traduisent, quoi, dans tous ces grands meetings politiques ou à l'ONU. Enfin, et ça, j'ai toujours trouvé ça. Et d'ailleurs, je trouve toujours ça impressionnant, quoi, d'arriver à écouter et à transformer et à parler en même temps qu'ils écoutent. Voilà, c'est ça que j'avais envie de faire, c'était juste d'être interprète. Et donc, avant ça, avant de rentrer dans une école, il fallait juste avoir un diplôme universitaire, une maîtrise. Enfin, donc, j'étais en langues étrangères appliquées, où je faisais de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol. Enfin, je faisais beaucoup de langues. Voilà.
Parce que votre rapport à l'anglais, il venait d'où ? Dans votre famille, on parlait anglais ?
Oui, ma grand-mère avait vécu en Afrique du Sud. Et elle aimait beaucoup nous parler en anglais. Voilà, c'était... Il y avait un culte de l'Angleterre, du thé, de tout un tas de petites choses. Et puis, voilà, ma grand-mère s'amusait beaucoup à nous parler quand on était en vacances en Auvergne. Elle nous appelait, elle disait « Véronica », elle criait dans la cour, je me souviens très bien. Et elle nous parlait en anglais. « Good night, sweet dreams ». Enfin, elle nous parlait beaucoup en anglais, c'était très...
Plutôt
qu'en patois, voilà, absolument. Puis l'anglais, ça chantait, c'était drôle de parler anglais, quoi. C'était vraiment un truc...
Vous aviez voyagé, vous, à l'époque
Avec la chorale, on avait voyagé, on était allé en Norvège, on était allé en Angleterre, on était allé en Espagne, à Majorque, enfin, on voyageait beaucoup. Non, on était très, très actifs, très, très actifs.
Comment est-ce que vous voyez la jeune Véronique qui veut devenir interprète Pensez que c'était déjà une envie d'entendre une certaine musicalité et de la rendre autrement, de vous marier
peut-être,
avec
peut-être, quand j'y pense, en plus être interprète, c'est ce que je suis en fait aussi maintenant, donc c'est vraiment transcrire à ma manière des choses que j'entends, donc c'est pas très étonnant. Je me posais pas trop de questions, en fait c'était tout droit, voilà, c'était la fac, c'était le conservatoire, c'était William Christie, et surtout les angoisses du dimanche soir, parce que j'avais une pile de partitions comme ça, et il avait dit le lundi d'avant, vous regardez tout ça pour la semaine prochaine, et j'étais tellement nulle en solfège, ma grand-mère m'avait acheté un piano, je me souviens, et mon papa m'avait acheté une petite machine, et j'enregistrais tous les cours, et je ressassais ça toute la semaine, j'étais un peu dépassée par les événements, honnêtement, et quand on arrivait tous en cours, il y avait des gens qui arrivaient très loin, il y avait Cécile Lebihan, je me souviens très bien, qui arrivait, elle arrivait de Rennes, il n'y avait pas le TGV à l'époque, elle avait passé la nuit dans le train, enfin c'était vraiment des gens qui en voulaient, qui étaient passionnés par tout ça, il y avait Pascal Bertin, que vous connaissez sans doute, il y avait plein de gens qui étaient là, il y avait Noémie Rime, il y avait tout un un tas de gens que je regardais comme ça, j'étais absolument admirative. Et donc, on s'installait dans cette salle et William disait, c'était Christophe Rousset qui était l'accompagnateur dans la classe, et William disait, qui brûle d'envie de me chanter ce qu'il a préparé cette semaine? Alors, tout le monde baissait la tête comme ça, on était tous terrorisés, surtout moi en l'occurrence. Et voilà, et quand ça tombait sur moi, bon, voilà, je faisais à ma manière ce que j'avais pu préparer, parce que les clés d'ut, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et à l'époque, il n'y avait pas le centre de musique baroque qui éditait des belles partitions bien éditées. C'était des manuscrits, des trucs complètement illisibles, des crottes de mouches. Là, c'était vraiment assez compliqué. Mais bon, voilà, je faisais ce que je pouvais et j'étais très intéressée par ce qu'il me demandait et ce que...
Donc c'était des cours collectifs?
Oui, oui,
aussi
oui.
Les cours individuels?
Non, c'était des cours collectifs. Ça s'appelait la classe d'interprétation de la musique vocale ancienne. Voilà, ça s'appelait comme ça. C'était à l'époque cette classe du Conservatoire supérieur de Paris, de William Christie. Et à mon grand désespoir, toutes les autres classes d'art lyrique, de chant, de tout, ils avaient des cours de solfège à l'époque, au moins des cours de solfège, probablement des cours de langue et tout un d'art dramatique, plein de choses. Mais cette classe était tellement spéciale à l'époque qu'elle avait droit à rien. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'était d'avoir des cours de solfège, parce que je savais bien que j'en avais besoin. Même si j'en faisais un peu au Conservatoire d'Orléans, enfin bon, je sentais bien que ça manquait beaucoup pour moi. Et je me revois frappée à la porte des classes de solfège, et c'était Graciane Vinzi qui m'a ouvert sa porte en disant « Mais oui, bien sûr, venez, avec plaisir, je vous aide avec le solfège. » Et je me souviendrai toujours cette femme qui a été si généreuse et si gentille avec moi, parce que j'étais jeune, j'étais déjà affichée étudiante baroque, et à l'époque, le baroque, c'était pas sérieux, c'était vraiment un truc pour les... Ouais, disons-le, pour les nuls, les chanteuses baroques, c'était celles qui n'avaient pas de voix, et les violonistes baroques, c'était ceux qui jouaient faux à l'époque. Et je vous dis ça vraiment parce que je l'ai vécu, je l'ai vraiment ressenti, et c'était vraiment... Mais c'était comme ça, voilà. Au Conservatoire de Paris, on vous regardait un peu de haut.
C'était un peu à part, oui.
Ouais, complètement. Et j'en ai beaucoup souffert. Et Graciane a été vraiment, à ce moment-là, si elle m'écoute... J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça, parce qu'elle était vraiment, elle voyait bien que j'étais pas très forte, mais bon, elle y croyait et elle m'aidait. Et quand j'arrivais, parce qu'on avait des heures pour arriver dans sa classe, et il y avait toujours des gens qui étaient là avant et après, avec des voix énormes et qui lisaient des trucs, et moi, je me disais, mon Dieu, mais bon, j'y allais, quoi. Je me disais, pourquoi pas, quoi. L'année d'après, au conservatoire, je continuais toujours les cours chez William Christie, et je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir une légitimité et montrer que je suis capable de chanter autre chose, parce qu'on me disait, oui, toi, la petite chanteuse baroque, enfin, je voyais bien qu'on prenait... Et j'ai essayé de passer le concours pour entrer dans la classe d'art lyrique. Ça, c'était pas une classe de technique de chant, mais c'était... Il y avait beaucoup, beaucoup de classes, mais je pense que c'est encore comme ça à l'époque, mais elles ont changé de nom. Et c'était la classe de Michel Roux. Parce que j'avais envie d'avoir un peu des cours d'art dramatique, des choses... Parce que je savais rien faire, honnêtement. J'étais complètement nulle et complètement ignorante. Et Michel Roux m'a accueillie très gentiment dans sa classe. Et je me souviens très bien, on travaillait les Noces de Figaro, la première scène, Cinque Dieci, voilà, toute cette scène où je chantais Suzanne. Et on rigolait beaucoup, et on mangeait, il y avait la galette des rois, il y avait les chocolats. Non, enfin, c'était très, très convivial, c'était très sympa.
Et les techniques vocales que vous demandait William Christie n'étaient pas en concurrence?
C'était pas compatible avec
le répertoire
Non, parce qu'à ce moment-là, personne ne parlait de technique vocale, et Michel Roux non plus, puisque c'était des classes d'interprétation. Et j'ai jamais parlé technique avec William Christie. J'étais pas là pour ça. J'étais là vraiment pour interpréter cette musique baroque dont je ne connaissais juste rien, quoi. Quand je l'ai rencontré là avec ma maman qui m'attendait en bas, j'avais juste acheté un disque des Arts Florissants parce que je voulais savoir un peu ce que ça voulait dire musique baroque. Qu'est-ce que c'était les Arts Florissants? Et je me souviens de ce choc d'entendre Agnès Mélon chanter justement les Arts Florissants et de Charpentier et de ces voix et de ce style incroyable. Et à l'époque, on avait tous que c'était des cassettes en fait, je crois. On avait tous un petit Walkman, là, et j'écoutais ça. Voilà, c'était vraiment, je découvrais tout ça. J'étais absolument vierge de tout, quoi. Je savais rien et j'étais prête à apprendre tout comme une éponge et à tout enregistrer, tout ingérer et tout digérer. C'était une période vraiment très très riche de ma vie, vraiment très. J'étais prête et j'avais envie. J'avais l'inconscience de la jeunesse et l'inconscience de pourquoi pas.
Les grands entretiens de Véronique Gens, France Musique.
Vous êtes embauchée dans les chœurs des Arts Florissants.
Voilà, c'est en 86 où...
Donc vous avez 20 ans.
Où j'ai à peine 20 ans, oui, et où William Christie dit à tous les gens de sa classe, on va faire un projet qui s'appelle Attis de Lully. D'ailleurs, on avait vu quelques scènes dans la classe, on avait déjà étudié. On va faire vraiment, finalement, ce spectacle, on va le faire en scène, et on a besoin de choristes, donc je vous invite, je revois William nous dire, à passer cette audition, on cherche des choristes, voilà. Alors, tous mes petits camarades y vont, tout le monde y va, il y avait vraiment des gens qui arrivaient de partout, et c'était Olivier Schnebeli, c'était à l'Opéra Comique, je me souviens très bien, dans la salle en haut, là. Il y avait des gens qui arrivaient de partout. Et puis, moi, j'ai dit, non, mais j'ai pas le temps de m'inscrire à cette audition. Vraiment, j'ai pas le temps. J'ai mes cours, j'ai mes trucs. En fait, j'y vais pas, quoi. Donc, j'y suis pas allée. Donc, les auditions se font. Et puis, à la fin des auditions, William a pas trouvé tout ce qu'il cherchait. Il avait encore besoin de gens. Et il me dit, mais pourquoi t'es pas venue? Mais je dis, mais j'ai pas le temps. J'ai la fac, j'ai le conservatoire. Alors, il dit, mais on va faire une deuxième fournée d'audition. Il faut que tu viennes. Bon. Alors j'y vais en traînant les pieds et effectivement je chante avec des trucs qu'on avait préparés avec d'autres chanteuses parce qu'ils cherchaient beaucoup des couleurs et des choses, enfin c'était pas juste des voix individuelles, c'était vraiment un ensemble et une couleur globale qu'ils cherchaient et puis voilà et je suis prise. Bon, oh là là, j'avais vraiment d'autres chiens à fouetter, vraiment ça me...
Alors qu'aujourd'hui c'est une représentation, enfin c'est une tournée historique, voilà, qui a marqué vraiment.
Et on commence à répéter
cette Attis de Lully.
Ouais, et on commence à répéter avec les chœurs et avec Jean-Marie Villégier qui nous mettait en scène, avec Francine Lancelot qui organisait. Enfin, c'était vraiment tout d'un coup un truc dingue, quoi. C'était donc dans les ateliers Berthier dans le 17e là et. On allait aux répétitions le soir et puis tout d'un coup, on assiste de plus en plus aux répétitions et on voit les solistes qui répètent aussi. On met tous les bouts ensemble, les danseurs, le continuo. Enfin, ça devient tout d'un coup un truc... Waouh, c'était vraiment pas... Et encore, on était dans ces studios au milieu dans un truc un peu crado. Enfin, vraiment pas du tout avec ce que c'est devenu après. Et là, voir Agnès Mélon et voir... Guillemette Laurence, alors que je les avais tellement écoutées en boucle, les voir chanter, reconnaître, ça m'a vraiment... Et je les regardais comme ça et je perdais un peu mes moyens, quoi. J'étais tellement fébrile de les avoir juste à côté de moi comme ça. C'est un grand souvenir pour moi, ces répétitions du soir, là.
Thank you.
Et dans cette attise, vous avez un petit solo.
Voilà. Dès le début, j'avais juste un petit solo, un petit trio, en fait, dans le troisième ou le quatrième acte, le petit trio avec, c'était Isabelle Desrochers qui chantait la voix du dessus. Moi, j'étais la voix d'en dessous. Jean-Paul Fouché-Court qui faisait le contre à la française. Et avec Bernard Delettré, c'était la scène de divertissement avec les petits ballets, les trucs. Voilà, la première version d'Attis, j'étais choriste et j'avais ce petit trio. Et nous voilà partis à côté de Florence, à Prato, pour faire la première de cet Attis, puisque ça a lieu à Prato, pas à l'Opéra Comique. Et tout d'un coup, on voit, parce qu'on avait fait quelques essayages des costumes, et on voit ces costumes fabuleux de Patrice Cochetier, où il n'y avait pas deux choristes qui avaient la même robe, des robes sublimes. Ces perruques 17e blanches avec des vrais cheveux, c'était... un perruquier, Monsieur Blanc, dont j'ai oublié le prénom, qui était un grand perruquier. Enfin, et tout d'un coup, le truc se monte petit à petit comme ça, et c'était complètement dingue, vraiment. Et alors, il y avait une maquilleuse qui était spécialiste des maquillages de cette époque, vous savez, c'est complètement transparent, comme de la porcelaine, très très brillant, et qui était là. Et comme il y avait pas beaucoup d'argent, je pense, ils avaient... ils avaient trouvé toutes les esthéticiennes de Prato qui savaient un peu maquiller, quoi. Et donc, elle essayait de leur enseigner comment il fallait nous maquiller. On avait tous des têtes épouvantables, on aurait dit des camions volés. Enfin, c'était juste atroce, à part ceux qui étaient maquillés, donc par les solistes qui étaient maquillés par la maquilleuse qui savait, qui essayait de leur apprendre. En plus, c'était en italien, c'était compliqué. Enfin, c'était assez épique, les premières répétitions en costume et avec le maquillage, mais dans ce décor magnifique.
Et c'est devenu une production de référence que vous avez tournée partout.
Et c'est devenu la production, voilà. Il y a eu avant Attis et il y a eu après Attis, vraiment. Et encore une fois, je dis toujours cette histoire complètement folle. Il y avait dans l'orchestre, il y avait Marc Minkowski qui jouait du basson, il y avait Christophe Rousset qui faisait le continuo, il y avait Hervé Niquet qui était dans le chœur aussi, il y avait Hugo Rennes qui jouait du hautbois, il y avait Joël Subiette qui était... Enfin, je veux dire, tout le monde était là et tout le monde après est parti voler de ses propres ailes, tout le monde a créé son propre ensemble et j'y étais et nous voilà partis à New York, en Italie, enfin dans des endroits complètement dingues et on refait des reprises et à chaque reprise il y avait plein de petits rôles dans cet opéra et à chaque reprise j'ai un rôle un petit peu plus grand et je me retrouve avec des rôles importants et je me retrouve à ne plus faire le chœur et désespérée de laisser mes copains. Et dans le prologue, il y avait tous les choristes qui étaient en haut, là, et comme sur les gravures d'époque, et qui regardent en bas ce qui se passe, et en faisant leurs commentaires, et c'était désespéré d'être en bas, et mes copains étaient là-haut, quoi. Mais vraiment, et j'allais les retrouver, parce que c'est des très très beaux souvenirs, tous ces voyages, et toutes ces... des pique-niques ensemble pendant qu'on n'était pas sur scène. Enfin, et plusieurs fois, on est arrivé en retard sur scène parce qu'on mangeait notre... Enfin, c'est vraiment des très très beaux souvenirs. Des très très beaux souvenirs, et très... Des belles années de ma vie, vraiment, vraiment. Il n'est point de résistance dans le temps.
Est-ce que votre voix avait changé et s'était développée entre les moments où vous étiez entrée dans la classe de Christie et puis ce moment où vous prenez en charge, où on vous confie des rôles de soliste ?
Atis, la première fois, c'était en 86 et j'ai fait une reprise, je me souviens, en 92. Ma voix avait évidemment, c'était corsée, j'étais plus sûre de moi, je savais faire deux mouvements sur scène sans tomber par terre ou sans me prendre les pieds dans le tapis. Enfin, j'avais appris beaucoup, j'ai appris sur le tas, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas d'école qui peut vous apprendre à gérer votre stress et à chanter devant du public avec un costume, une perruque, pas toujours confortable. Enfin, il n'y a pas d'école qui existe comme pour ça. C'est vraiment quand vous êtes sur scène que vous apprenez. Et vous apprenez tout seul, en fait, quelque part.
Vous étiez encore suivie par Jacqueline Bonnardeau pendant combien d'années ? Pendant combien de temps ?
Pendant longtemps, oui. J'allais la voir chez elle à Paris, boulevard Saint-Germain. Et oui, elle était vraiment pour moi le point d'ancrage. Elle me disait « ne tube pas ». Parce que c'était sa façon de dire que j'essayais sans doute de grossir un peu ma voix pour essayer d'avancer plus vite, j'en sais rien. Enfin, comme toutes les jeunes chanteuses qui font des trucs pour faire « oh, genre, ma voix est plus grosse qu'elle n'est ». Elle me disait « ne tube pas ». Et elle a toujours essayé de rechercher cette légèreté, cette clarté, cette simplicité dans la voix, pas faire « oh, comme ça, de bien faire gros et... ». Je lui dois beaucoup pour ça, d'avoir toujours réussi à me faire prendre conscience que j'étais en train d'essayer de faire comme les autres, quoi. Et de rester moi-même et de rester une voix claire et légère. Et malgré Oui, je sentais bien que ma voix se corsette de plus en plus et qu'elle était... J'avais un médium très confortable, je l'ai toujours eu.
Pourtant, on vous employait, notamment aux Arts Florissants, plutôt dans un registre aigu.
Voilà. C'est ça ? Et c'est là où c'est devenu compliqué pour moi, parce que je faisais toutes les nymphes, les bergères, tous les trucs un peu légers, où j'étais pas très confortable. Je commençais à sentir que ça tirait pour moi et que les autres filles faisaient ça beaucoup plus facilement, quoi. Et William Christie a eu l'intelligence et il a bien entendu qu'en fait j'étais en train de descendre un peu et il a commencé à me proposer des choses plus centrales, quoi, des choses plus bas médium, comme on disait à l'époque. Et voilà, j'étais moins la petite bergère et le petit truc léger avec les petits. J'étais devenue plus un soprano 2, quoi, voilà. Et j'ai chanté beaucoup de choses aussi, parce que là, on parle d'Atis, mais il y a eu beaucoup d'autres spectacles, beaucoup de tournées en petit effectif. On partait des tournées énormes en Scandinavie, en Amérique du Sud.
Avec quelle production ?
Avec des petits effectifs, en fait, des programmes courts, des charpentiers, des programmes de Noël. Avec Noémie Rim, moi, j'étais en deuxième dessus, il y avait... Dominique Viss, Jean-Paul Fouché-Court, Michel Lapleigny, voilà, vraiment, on était 5-6 chanteurs. Après, il y a eu Gérard Laine qui est arrivé aussi, et c'était Bill qui était à l'orgue positif, et Elisabeth Matifard qui était à la viole de gambe. Et on tournait, on voyageait, vraiment, c'était des tournées énormes, énormes, très fatigantes. On arrivait, on faisait un raccord, on chantait, le lendemain, on prenait un autre avion, on allait ailleurs, mais je me souviens de Helsinki, la veille de Noël, ou de Stockholm, enfin, c'était juste fabuleux, et dans des hôtels incroyables avec... beaucoup de sauna, beaucoup de hammam, des choses comme ça. Et ça nous faisait un bien fou. Et des voyages à n'en plus finir. Et c'était une autre époque.
Parmi les œuvres que Véronique Jans a chantées en petit effectif, il y a cette Assumpta est Maria de Louis Lemaire. Véronique Jans est ici aux côtés de Noémie Rim. C'est un enregistrement datant de 1992 sous la direction de William Christie, dont il sera beaucoup question demain dans le troisième volet de ses grands entretiens. Réalisation Marie Groux, prise de son Yves Lehors, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Les références, la réécoute et le podcast sont à retrouver sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.